Kiosque Magazine.
Bon matin, bonjour à tous, nous sommes le 25 mars, bienvenue à Canal M, le kiosque magazine, rubrique santé, cuisine et maison. Ici on prend soin de votre corps, de votre psyché et de votre environnement. Je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous aurez plaisir en notre compagnie. Au micro, Safia Larabi, aux côtés de Dominique Millet.
Bonjour Safia.
Et Sophie Chevance.
Allô, bonjour à tous.
Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Dominique ?
Mais moi, je vais vous parler santé, des nouveaux mots et comment gérer le temps d'écran de nos enfants.
Sophie ?
De mon côté, j'aurai quelques brèves cuisine et maison, mais j'avoue que je me suis pas mal concentrée sur le domaine de la santé aussi aujourd'hui, avec deux articles. Le premier sur la galère des mères sans RAMQ et ensuite un deuxième article sur l'obésité.
Très bien, très varié ce matin. Quant à moi, je vous parle de comment se débarrasser de tout ce qui nous pèse, comment faire le ménage dans sa tête et se débarrasser d'un complexe, d'un rêve, d'une rancune ou d'un... je ne sais plus...
regret.
D'un regret, bravo Sophie.
Je l'avais vu. À tout de suite.
Nouvelle ère, nouveaux mots. C'est un texte par Linda Presley et c'est dans le Véro Magazine du printemps 2015. Le manque de sommeil ou le téléphone intelligent semble bien peu menaçant en comparaison des tyrannosaures ou des épidémies de peste de jadis. Pourtant, il gruge notre capitale santé, radiographie des petites et grandes maladies d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, la dépression, nos blues ne passent plus dans la porte. Notre morale en prend un coup depuis les 100 dernières années. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les troubles de santé mentale seront, en 2020, la deuxième cause de maladie et d'incapacité après les maladies cardiovasculaires. Nous assistons à une augmentation des cas de dépression depuis le XXe siècle, notamment parce que notre rythme de vie s'est accéléré et que nos emplois sont généralement plus exigeants sur le plan psychologique, explique Marie-Josée Filteau, psychiatre de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Selon bien des études, la sédentarité, un régime alimentaire pro-inflammatoire, trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3, l'abus d'alcool, le tabagisme, les drogues, le stress et le manque de sommeil nuisent au bon fonctionnement du cerveau, ce qui augmente nos risques de souffrir de maladies en tout genre. Et attention, un cerveau mécontent aura tendance à rétrécir. Des chercheurs de l'université américaine Yale ont en effet observé qu'une longue dépression pouvait mener à l'atrophie de nos cellules grises. Heureusement, on peut les retrouver. Il est prouvé que des mesures simples, comme l'exercice, le yoga, la méditation, une saine alimentation, un meilleur sommeil et la psychothérapie peuvent non seulement contribuer à protéger le cerveau, mais aussi à le restaurer en favorisant la création de nouveaux neurones, précise la docteure Filteau. Alors après la dépression, il y a l'insomnie. Morphée ne nous tend pas les bras. Sleep is the new sex, annonçaient il y a quelques années les spécialistes des tendances aux États-Unis. Pourtant, on dort en moyenne une heure de moins par nuit qu'il y a 20 ans, et même deux, affirme le docteur Pierre Meyer sur le site de la Fondation Sommeil. Ces 60 à 120 minutes qu'on passe à travailler, à ronger notre frein ou encore à naviguer sur Internet peuvent nous sembler inoffensives. Or, il suffit d'une seule nuit écourtée pour nous rendre plus émotifs, moins concentrés et pour nous faire perdre de la masse cérébrale. On persiste à ne pas compter les moutons. On devient alors un mauvais dormeur qui ne rembourse pas ses dettes de sommeil et qui éprouve de plus en plus de difficultés à dormir sur ses deux oreilles. Conséquence, une augmentation des risques d'obésité, de cancer, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de dépression et même de mortalité. La fatigue visuelle, la faute aux écrans numériques. Nos yeux ne chôment pas, ils reçoivent environ 80% des informations qui nous entourent, et celles-ci proviennent généralement d'appareils technologiques. Selon l'enquête Net Tendance, nous consacrons plus de 20 heures par semaine à naviguer sur Internet, sur notre ordinateur, notre tablette ou notre téléphone intelligent. Sans compter les 7 à 8 heures, sinon plus, que nous passons chaque jour devant l'écran de notre ordi de bureau, ainsi que devant notre téléviseur et notre liseuse. Selon le docteur Langis Michaud, président de l'Ordre des optométristes du Québec, le nombre de personnes qui consultent un spécialiste pour des troubles liés à la fatigue visuelle a augmenté au cours des dernières années. Parmi leurs symptômes, yeux douloureux et larmoyants, vision embrouillée ou double, sécheresse oculaire, maux de tête et vertige. L'obésité, championne dans la catégorie poids lourd. En près de 25 ans, le pourcentage d'adultes québécois qui souffrent d'embonpoint et d'obésité est passé de 35 à 51%. Encore plus alarmant, on voit apparaître chez des enfants et des adolescents les maladies chroniques, diabète de type 2, troubles cardiovasculaires, préhypertension, qui sont en lien avec l'obésité et la sédentarité, explique Corinne Voyer, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Nos enfants constitueront la première génération dont les membres vivront moins longtemps que leurs parents, dit-elle. Autant chez les adultes que chez les enfants, la sédentarité joue un rôle majeur dans cette prise de poids. On néglige également de manger suffisamment de fruits et de légumes chaque jour, malgré les preuves que nous fournit la science quant à leur rôle préventif et protecteur sur notre santé. La coalition mène aussi un combat acharné contre les boissons sucrées, eau vitaminée, boissons énergisantes. Notre tabac du 21e siècle, affirme Madame Voyer. Elles peuvent contenir 8 à 13 cuillerées de thé de sucre par bouteille. Ce sucre liquide, transformé en graisse par le foie, est nocif pour tout le monde, peu importe son poids. Également coupable, l'explosion sur le marché des produits transformés et la popularité du concept « don't cook, just eat », selon lequel chef et traiteur cuisinent à notre place. Tout ceci fait en sorte qu'on perd le savoir alimentaire, déplore Madame Voyer. L'open space. Entassé comme des rats, créé en Allemagne dans les années 50, le concept des bureaux à air ouverte a pour but de stimuler la créativité des employés et d'augmenter la productivité. Mais beaucoup d'études et de sondages menés par des chercheurs en psychologie au fil des années ont démontré que le travail sans cloison ni mur sème au contraire le désordre, augmente le sentiment d'isolement et de perte de contrôle, nuit à la concentration et sape le moral des troupes. Selon une des plus récentes études à ce sujet, les employés d'un bureau à air ouverte prennent plus de jours de congé de maladie que ceux qui travaillent dans un bureau. Les raisons ? Le bruit, le stress et la propagation des microbes. Alors, on continue avec cet article sur les nouveaux mots. Et oui, il y en a encore. La sédentarité, sauf qui peut. Nous passons en moyenne plus de 7 heures par jour scotchés sur une chaise. Or, la sédentarité tue plus que le tabagisme, nous mettent en garde les experts. Selon François Carré, cardiologue et président de l'Observatoire de la sédentarité en France, plus on reste longtemps assis, plus notre espérance de vie est courte. Outre les conséquences désagréables classiques, troubles musculo-squelettiques, mal de dos, jambes lourdes, sensations de fatigue chronique, constipation, la posture assise prolongée fait augmenter les risques de souffrir d'hypertension, de diabète, de taux de cholestérol élevé, de maladies cardiovasculaires, en plus de favoriser les risques de chute et le développement de la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées. Ah ouais. Avis à ceux qui font le trajet maison-boulot tous les jours en voiture, selon la Fondation des maladies du cœur du Canada, chaque tranche de 1 heure derrière le volant augmente de 6% le risque d'avoir un problème d'obésité. Il faut mieux marcher. Hein. Le téléphone intelligent, gare au stress portatif. On craque pour lui. Au Québec, plus de 50% d'entre nous sont propriétaires d'un smartphone. et s'en servent quotidiennement. Même s'il peut nous donner une tendinite ou même une nuque du texto, crampe dans les doigts et les poignets ou dans la nuque, on s'en fout. Malade d'amour ou on va même jusqu'à souffrir du syndrome des vibrations fantômes. C'est-à-dire qu'on a l'impression de sentir vibrer notre appareil. C'est le cas de 90% des participants à une étude privée dans la revue Scientific Computer and Human Behavior en 2012. Par ailleurs, l'instantanéité des technologies mobiles amène parfois un faux sentiment d'urgence, ce qui accroît les attentes et les exigences chez certaines personnes. Ces attentes ont nécessairement un impact sur le niveau d'anxiété. En cas d'usage excessif, la cyberdépendance nous guette et on peut éprouver des syndromes de manque comme l'anxiété, la tristesse, l'irritabilité, voire la déprime quand on est privé de notre appareil. Cela peut même causer des problèmes relationnels, scolaires, professionnels ou conjugaux. Et enfin, Facebook, entre distraction et désolation. On est gaga de Facebook, selon l'enquête Net Tendance. Il est le média social le plus visité quotidiennement par les Québécois. Mais la dépression Facebook pourrait bien exister. Ainsi, des chercheurs de l'Université du Michigan ont observé dans le cadre d'une étude menée auprès d'utilisateurs de ce média social que plus ces derniers le visitaient, plus ils se sentaient malheureux. Conclusion, Facebook donne l'impression que tout le monde est plus heureux que soi. Toutefois, après avoir analysé des dizaines d'études portant sur Facebook, on a remarqué qu'on ne détient pas toutes les informations à propos des utilisateurs. La question se pose, visitons-nous Facebook pour briser notre solitude ou est-ce ce dernier qui crée notre isolement ? Un fil d'actualité à suivre. Et alors, je vais continuer par un autre article qui concerne nos enfants. Comment gérer le temps d'écran de nos enfants ? On reste un peu dans le même sujet. C'est toujours dans le Véro Magazine du printemps 2015 et c'est par Vincent Marissal. Connaissez-vous Sam-Sam, le plus petit des grands héros ? Personnage animé qui vit sur la Sam-Planète avec Sam-Maman et Sam-Papa et qui parcourt les galaxies avec Sam Nounours dans la Sam Soucoupe. Bon, je pense que vous avez compris le concept. Moi, j'aime bien Sam Sam, qui est plutôt rigolo, contrairement à Caillou, Choupi et autres petits personnages insupportables qui ne cessent de geindre et de faire des bêtises devant les yeux attendris de leurs parents Béa. Bon voilà, c'est dit, je déteste Caillou. Rien pour me faire des amis au Québec. Mais revenons à Sam Sam. Dans un épisode, il refuse d'aller jouer dehors malgré l'insistance de son ami Petit Pao. Même Sam Maman n'arrive pas à le convaincre. Rien à faire. Sam Sam est scotché devant la télévision. Si bien qu'à force de regarder l'écran, il se retrouve avec des yeux carrés. Évidemment, il panique, il craint de rester ainsi pour le restant de ses jours et il promet de moins regarder la télé. « Ah, enfin !» me suis-je dit. Mes enfants vont comprendre le message. Voilà une émission éducative qui sera peut-être plus convaincante que moi lorsque j'essaie de leur faire comprendre qu'il est mauvais de trop regarder la télé. Tu parles. Ils sont immunisés, ces chérubins, contre toute forme de menace et contre les risques inhérents à la surutilisation des écrans. J'ai bien dit des écrans. Parce qu'à la télé, il faut ajouter le iPad, le iPhone, le PC, l'ordinateur portable. Il n'y a pas que les yeux de nos enfants qui vont devenir carrés. Leur cerveau aussi va y passer. En plus de veiller à ce que les jeunes mangent leurs légumes, se brossent les dents, fassent leurs devoirs, prennent leur bain, aillent se coucher, etc., les parents de l'ère 2000 doivent aussi remplir une mission quasi impossible. Gérer le temps passé devant les écrans qui sont partout tout le temps. Dans le creux de la main, sur les genoux, sur la table à manger, au petit coin, dans l'auto. Si ça continue, il y a bien un fabricant de douches et de bains qui va intégrer un écran tablette, tactile, résistant à l'eau, encastré pour que l'enfant ne passe pas une seconde sans jeu vidéo, sans Facebook ou sans vidéo débile, même lorsqu'il se lave. Il fut un temps où, à l'heure des repas, le principal défi des parents était de s'assurer que les morveux finissent leur assiette, qu'ils ne se lèvent pas de table et qu'ils participent à la vaisselle. Aujourd'hui, les parents jouent à la police des écrans. Non, pas de iPad à table. Non, on n'écoute pas la télé en mangeant. On laisse le iPhone de papa. Si votre maison ressemble à la mienne, la phrase que vous entendez le plus souvent, c'est « juste finir ma partie » que les enfants lancent en se cramponnant au iPad que vous tentez de leur extirper des mains. Ils deviennent accros et il n'y a aucune limite au temps qu'ils peuvent passer devant un écran. La seule limite, c'est celle de la charge de la batterie de l'appareil. Et encore, ils sont bien capables de le brancher pour continuer leur quête dans Clash of Clans ou leurs exploits dans Candy Crush. Autrement, ils regardent des âneries du genre Cyprien ou Jérôme, deux insupportables pseudo-comiques français qui débitent des fadaises avec un enthousiasme juvénile. J'ai fait quelques recherches dans Google et vous constaterez que je ne suis apparemment pas le seul parent à m'inquiéter. Et les nouvelles sont mauvaises. Les enfants canadiens passent beaucoup trop de temps devant des écrans. Dans une étude comparative portant sur 15 pays, le Canada récolte un F dans la catégorie « comportement sédentaire ». Les chiffres sont affolants. Les enfants et les ados d'ici passent 7 heures par jour devant un écran et consacrent 63% de leur temps libre à des activités sédentaires. On est en train de se faire une génération de patates de sofa. Mea culpa. Toutefois, je prends une part du blâme. D'abord parce que je passe moi aussi trop de temps devant des écrans, le plus souvent pour le travail, c'est vrai. Mais cela veut dire que je travaille trop. Ensuite, il y a un peu de paresse là-dedans. Les écrans occupent les enfants, ce qui nous donne un peu de répit. Que faire alors? Donner l'exemple, en diminuant le temps que nous passons nous-mêmes devant les écrans. Moi, j'ai ressorti les bons vieux jeux de société et les bâtons de hockey. Tous les experts le disent. 2 heures max par jour d'écran pour les enfants. Pas le choix. Il faut imposer des limites et sévir. Oui, ça aussi, être parent. Même parent 2000.
On brave les vents du nord, on déblaye nos chars en rêvant de la terrasse du vieux port. Les enfants ont joué dans la rue, comme dans le temps que j'étais tigu. Un hockey en plastique, un chandail des Nordiques. Au dégel, on serrait l'équipement. Tout le monde dehors, c'est l'arrivée du printemps. Les filles sont belles, les rayons de soleil. Tout le monde dehors, c'est l'arrivée du printemps. On va se payer. Sur les pavés, la rue Saint-Denis est bondée. On le sent, on le sait, que l'hiver est terminé, que le soleil va nous réchauffer. Tout le monde dehors, c'est l'arrivée du printemps. Les filles sont belles. Des rayons de soleil. Tout le monde dehors, c'est l'arrivée du printemps. On va se payer du bon temps. Tout le monde dehors, c'est l'arrivée du printemps. Les filles sont belles. Des rayons de soleil. Tout le monde dehors, c'est l'arrivée.
C'était un titre d'Alain François, Tout le monde dehors. Alors, l'article suivant n'est pas nécessairement plus enchantant. Il s'intitule « La galère des mères sans RMQ », un texte d'Annabelle Nicoud paru dans la presse le 6 janvier 2015. L'accès aux soins de santé est en théorie universel au Québec. Chaque année, pourtant, des femmes légalement installées ici ou non mènent un véritable parcours du combattant pour avoir accès à des soins périnataux qui leur sont, de surcroît, surfacturés. Leur santé et celle de leur bébé à naître font l'objet d'un véritable marchandage avec les institutions et les professionnels de la santé. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas gratuit accoucher au Canada. Nous sommes au téléphone avec la secrétaire d'un médecin de la clinique Métromédic à Montréal, à qui nous nous sommes présentés comme une Française enceinte, non couverte par le régime d'assurance maladie. Certains migrants en situation régulière n'ont en effet pas accès à la couverture de la régie de l'assurance maladie du Québec. Notre cas n'étonne donc pas notre interlocutrice, qui détaille les frais à débourser pour être prise en charge par le médecin. Il faut un dépôt de 3 500 $ pour le médecin accoucheur qui n'inclut pas l'épidurale. Il faut le payer comptant dans les 3 premières visites. Payer son médecin en argent comptant n'est pas envisageable pour les bénéficiaires de l'assurance maladie. C'est pourtant ce qui est demandé aux femmes sans couverture de la RAMQ avant et même parfois pendant leur accouchement. Je recommande aux femmes qui vont à l'hôpital pour accoucher d'amener 3 petites enveloppes brunes. La première avec 1 000 $ pour payer une partie des frais de l'hôpital, la deuxième avec 700 $ pour payer le médecin et la troisième au besoin pour payer l'anesthésiste, explique Anne-Marie Belmar, travailleuse sociale à la Maison Bleue, un organisme de bienfaisance de Montréal destiné aux femmes vulnérables. Madame Belmar est témoin de nombreuses situations difficiles, elle énumère. Un médecin qui se fâche pendant un accouchement parce que le papa du bébé n'a que 700 $ à lui remettre alors qu'il demande 1 500 $. Une femme hospitalisée à 29 semaines de grossesse et qui quitte l'hôpital avec une facture de 175 000 $. C'est quand même assez intense. Ou enfin, une femme qui, espérant économiser en prévision de son accouchement, a un suivi médical minimal et accouche seule chez elle d'un bébé mort né de 7 mois. Madame, oui en effet, Madame Belmar intervient ainsi auprès des hôpitaux pour désamorcer les tensions autour de ses patientes. Dans 98% des cas, les gens qu'on voit veulent payer les frais. Si les frais sont raisonnables, ils vont payer, estime-t-elle. Tarif, combien coûte un accouchement au Québec hors RAMQ? À question simple, réponse complexe, car chaque hôpital a en effet sa propre grille tarifaire. Ces frais qui ne comprennent pas ceux du médecin et de l'anesthésiste sont majorés de 200%, on dit, par rapport au tarif de la RAMQ. Il faut ainsi compter quelques milliers de dollars pour un accouchement standard. Dans un deuxième article intitulé « Enceinte sans suivi », il était question d'environ de prix qui peuvent grimper jusqu'à 10 000 $ pour un accouchement sans complications. Alors... S'il est possible de conclure des ententes de paiement avec l'hôpital, les sommes dues au médecin accoucheur et l'anesthésiste sont payables immédiatement et chaque professionnel a donc son propre prix, il le fixe comme il le veut. Ainsi, nous avons pu constater que certains médecins exigent d'emblée jusqu'à 3 500 $ en liquide pour un accouchement, presque 10 fois le tarif de base de la RAMQ qui est de 460 $. Je crois que les médecins qui font ça le rationalisent parce que ça prend un effort supplémentaire de s'occuper de ces femmes. Je ne veux pas dire que c'est abusif, mais disons que cela rend des femmes vulnérables, encore plus vulnérables. Estime pour sa part la docteure Catherine Jarvis, médecin de famille au CLLC Côte des Neiges et co-auteur de 2 articles sur le sujet parus dans le journal d'obstétrique et de gynécologie du Canada. De son côté, l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec estime la pratique justifiée. Ce sont des soins privés offerts par des professionnels de la santé hors RAMQ. Ils peuvent facturer le montant qu'ils jugent raisonnable, estime la présidente de l'association, la docteure Isabelle Girard, qui a répondu à nos questions par courriel. Certes, des soignants refusent de se faire payer en salle d'accouchement. D'autres demandent un prix minimal, mais ces différences créent des tensions au sein des équipes. Le luxe de l'épidurale. Si les médecins sont toutefois tenus d'offrir des soins à une femme en travail, ce n'est pas le cas des anesthésistes, sauf en cas de complications. Ainsi, il n'est pas rare que des anesthésistes dont l'association recommande de facturer 1 100 $ aux patientes sans RAMQ refusent de faire une épidurale s'ils ne sont pas payés et on met entre parenthèses « en espèces ». Marchandage. Jusqu'où aller pour être payé? Plusieurs intervenants interviewés par la presse rapportent que l'hôpital général juif retient parfois les documents de naissance du bébé. L'hôpital parle plutôt de malentendus. Le ministère de la Santé connaît ces pratiques qui s'ancrent dans le marchandage autour des paiements. Immigrantes ou touristes, qui sont les femmes enceintes sans assurance maladie? Il n'existe aucune statistique ni aucune donnée sur le profil de ces patientes. On ignore ainsi combien parmi elles sont des immigrantes et combien sont des touristes venus chercher une citoyenneté à moindre frais. Toutefois, Médecins du Monde ou la Maison Bleue estiment que leurs patientes sont toujours des migrantes installées à Montréal. Des femmes sans RAMQ, il existe en effet de nombreux cas expliquant qu'une personne soit légalement au Canada mais qu'elle soit exclue de l'assurance maladie. En voici quelques-uns. Les immigrantes en attente de parrainage, avant d'obtenir un certificat de sélection du Québec, ces futures résidentes permanentes ne sont pas couvertes par la régie de l'assurance maladie. Ensuite, au niveau des immigrants temporaires, on parle des étudiants étrangers qui doivent souscrire à une assurance privée, mais on dit que celle-ci ne couvre pas automatiquement la grossesse. J'ai regardé, on parle quand même d'une assurance obligatoire pour les étudiants étrangers. Semble-t-il, cela couvre la grossesse, mais jusqu'à quel point, je ne sais pas. On parle de frais raisonnables. Alors, si ça dépasse, après, c'est autre chose. Et puis aussi, en immigrant temporaire, les Françaises, ben, en fait, toutes les personnes qui ont un permis vacances-travail, ici, on parle notamment des Français qui sont très friands de ce style de permis. Ce populaire, donc permis délivré par Ottawa, permet aux jeunes de 18 à 35 ans de travailler ou de voyager au Canada, mais n'est pas assorti de la couverture de la RAMQ. L'assurance à laquelle souscrivent les Français, les Françaises et les autres personnes qui ont un permis vacances-travail ne couvre pas la grossesse. Et puis enfin, les demandeurs d'asile déboutés en attente d'une résidence permanente pour motif humanitaire. Le ministère de la Santé ne compile aucune statistique sur les femmes accouchant au Québec sans RAMQ. Les hôpitaux ne font pas systématiquement le décompte, mais si l'on compile les chiffres fournis par ceux qui le font, au moins 250 femmes ont accouché sans RAMQ dans le Grand Montréal en 2013.
Nous allons partir pour une petite pause et on revient dans très très peu de temps.
Bienvenue au kiosque magazine de Canal M avec un article. Ici, on faisait le ménage dans notre tête et ça vient du coup de pouce de mars 2015 sous la plume d'Isabelle Bergeron. S'il est facile de faire place nette dans la maison, le faire en soi-même l'est beaucoup moins. Ça vaut pourtant la peine de sortir le plumeau. Rien ne fait plus de bien que de se dépoussiérer mentalement. Première étape, se débarrasser d'un complexe. Est-on complexé? Pour Stéphanie Léonard, psychologue spécialisée dans le traitement des troubles de l'alimentation et des comportements alimentaires, un complexe se définit par le fait d'accorder une importance démesurée à une partie de soi-même qu'on n'aime pas, ce qui affecte négativement notre perception de nous-mêmes et notre bien-être. Un sondage mené aux États-Unis, en Europe et en Asie en 2014 par la compagnie Unilever a révélé que 90% des répondantes n'aimaient pas leur physique. Ce résultat n'étonne guère Stéphanie Léonard. Développer un complexe est facile, trop facile, parce que le modèle proposé est irréaliste, explique la spécialiste. On le sait intellectuellement, mais marketing oblige. On est souvent prise émotionnellement par ce message, parce que la beauté n'est pas qu'une question d'apparence, elle est associée à la réussite, à la performance, au contrôle de soi. Pour y arriver, un pas à la fois, premièrement, il faut d'abord prendre conscience qu'on a un complexe, dit la psychologue. Un complexe nous empêchera de faire certaines choses ou les rendra très difficiles. Comme s'empêcher d'aller à la piscine, éviter l'intimité ou trouver mille stratégies pour camoufler la partie de notre corps qu'on n'aime pas. Deuxièmement, démystifier ce à quoi on se compare. On a un gros nez ? Par rapport à qui ? On est grosse ? Comparé à quel modèle ? Notre choix de modèle est-il vraiment réaliste ? Demande Stéphanie Léonard. Célébrer le fait qu'on ne ressemble à personne d'autre, qu'on est unique et belle à notre façon. C'est un processus qui peut prendre du temps. Troisièmement, diminuer l'importance qu'on accorde à l'apparence. L'idée n'est pas d'accorder zéro importance à son apparence, mais viser un équilibre et de valoriser d'autres aspects de soi, insiste la psychologue. L'écoute, le sens de l'humour, l'intelligence, vive l'empathie, autant de qualités qui nous façonnent de belles manières. Quatrièmement, cesser de focaliser sur ce qu'on n'aime pas et regarder l'ensemble de l'œuvre et réaliser que c'est ainsi que les gens nous voient. Quand on a un bouton, on croit que tout le monde ne voit que ça, dit la spécialiste. C'est faux. Les gens nous perçoivent généralement sous un bien meilleur jour que nous-mêmes. Enfin, dans certains cas, on devrait faire un deuil. Nos seins ne sont pas ceux de nos 20 ans, et oui, on a hérité des oreilles très notables de notre père. La chirurgie peut-elle nous sauver la vie ? Parfois, ça peut aider à restaurer un peu de notre confiance, mais la plupart du temps, les attentes sont tellement irréalistes que ça ne marche pas. La chirurgie ne change rien à notre inconfort. Le mieux est vraiment l'acceptation de soi, même si ce n'est pas facile, mais ça vaut le coup. Autre rubrique, se débarrasser d'un rêve. On nous répète sans cesse qu'il faut viser haut, toucher les étoiles, que rien n'est impossible. Il existe des centaines de livres sur l'importance de réaliser ses rêves, des milliers d'articles sur la façon d'y parvenir. Mais à peu près rien sur les rêves dont on doit faire le deuil, soit par obligation, soit tout simplement parce que c'est dans notre intérêt. Il y a une pression sociale énorme à réaliser ses rêves, admet la psychologue José Jacques. Et quand on n'y arrive pas, c'est souvent perçu comme un échec. Si on souhaite faire un peu de ménage dans notre rêve, il faut d'abord se demander à quoi ils répondent. À un désir réel ? À des normes sociales ? Aux projections que d'autres avaient pour nous ? Mais peu importe la raison, mettre une croix sur un rêve n'est jamais facile. Celui d'avoir un enfant parce qu'on est infertile ou parce qu'on n'a pas rencontré la bonne personne ? Celui d'être l'artiste qu'on aurait souhaité être tout simplement parce que la vie nous a amenés ailleurs ? Pour y arriver, un pas à la fois. Premièrement, on doit d'abord reconnaître que notre rêve ne se réalisera pas, dit la spécialiste qui s'intéresse depuis plusieurs années au deuil. Pour la psychologue, il existe un parallèle entre le deuil d'une personne aimée et celui d'un rêve longtemps chéri. Ce n'est pas la même chose, mais le processus pour y arriver est sensiblement le même. Deuxièmement, accueillir les émotions qui dérouleront de ce deuil. Une fois qu'on a pris conscience que notre rêve ne se concrétisera pas, on passera sans doute par toute une gamme d'émotions. Colère, déception, culpabilité. C'est tout à fait normal et légitime, insiste la spécialiste. Il faut se donner du temps pour vivre ces émotions, sans toutefois les entretenir indéfiniment. Si c'est trop difficile, on n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Troisièmement, faire le bilan et peut-être tirer des leçons. On rêvait d'avoir notre propre entreprise, mais voilà qu'à 50 ans, on n'y est toujours pas parvenu. Le voulait-on vraiment ? Est-ce que notre père entrepreneur ne nous a pas légué un rêve qui n'était pas le nôtre ? Analyser les raisons pour lesquelles notre rêve ne s'est pas concrétisé nous aidera à progresser. Et on n'oublie pas non plus tout ce qu'on a accompli jusqu'à présent. L'être humain a tendance à focaliser sur ce qu'il considère comme un échec en oubliant tout ce qu'il a réalisé. Enfin, quatrièmement, faire naître de nouveaux rêves en se recentrant sur le présent et en visant l'avenir. Comment ? En se définissant de nouveaux rêves après avoir établi ce qui est vraiment important pour nous. On peut aussi se rapprocher de notre rêve ultime par des gestes plus petits. Exemple, impossible de partir un an pour faire le tour du monde ? On retirera tout de même beaucoup de satisfaction en s'organisant pour voyager un peu plus souvent, en choisissant d'autres destinations. Débarrasser d'un regret. Peut-on vivre toute une vie sans avoir le moindre regret? C'est peu probable. Néanmoins, certaines personnes semblent n'avoir que très rarement des regrets, alors que chez d'autres, ceux-ci prennent une place démesurée, remarque Rosemarie Charest, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Ce qui les distingue? Les premières, souvent optimistes, savent tirer le positif de toute expérience, alors que les secondes sont généralement plus pessimistes. Les perfectionnistes, les gens qui craignent l'échec et ceux ayant une forte tendance à la procrastination sont aussi plus susceptibles d'accumuler les regrets. Par ailleurs, la nature de nos regrets a aussi un impact sur la façon dont on les gérera. Selon plusieurs recherches, il semble qu'il soit un peu plus facile de vivre avec le regret de quelque chose qu'on a fait que de quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors que le premier a tendance à se dissiper avec le temps, le second, plus insidieux, peut prendre racine pour longtemps. Mais quel que soit le regret qui nous empoisonne la vie, on peut arriver à s'en défaire. Une bonne raison d'y travailler. Selon une étude de l'Université Concordia de 2011, lorsqu'on se compare avec plus mal loti que soi, on arrive mieux à surmonter nos regrets et ça a une incidence positive sur notre bien-être émotionnel. En revanche, entretenir des regrets engendrerait un trouble émotionnel qui affecterait jusque notre santé physique. Pour y arriver, un pas à la fois. Premièrement, faire preuve d'indulgence envers soi-même. Qu'on regrette d'avoir refusé tel emploi ou de ne pas avoir dit « je t'aime » à telle personne, quelle que soit la nature de notre regret, on doit d'abord accepter qu'on ne pourra pas changer les choses et se pardonner. On doit aussi réaliser que regarder le passé avec notre regard présent est un exercice biaisé, note la psychologue. On n'est pas tout à fait pareil. On a évolué. On peut avoir oublié l'état d'esprit dans lequel on se trouvait alors, ainsi que les raisons qui ont motivé notre choix. Dans le cas d'un regret dû à l'inaction, on doit se rappeler qu'on ne sait pas ce qui serait arrivé si on avait posé tel geste ou dit telle chose. Deuxièmement, faire le deuil des choix qu'on ne fait pas. On peut généralement associer un regret avec un choix qu'on a fait, dit Rosemarie Charest. Or, ce choix s'est fait au détriment d'un autre. Si on commence à jouer avec les « si », en s'imaginant les 1000 possibilités qui en découlent, on n'a pas fini. On assume nos choix et on accepte ceux qu'on ne fait pas. Troisièmement, notre personnalité est-elle en cause? Peut-être aurait-on avantage à travailler sur notre personnalité, surtout si on est du genre à regretter souvent. S'attarder davantage au positif dans notre vie, apprendre à reconnaître nos bons coups, à apprécier nos résultats même s'ils sont plus modestes qu'on ne l'avait espéré. Travailler sur notre tolérance à l'échec. Enfin, se servir de nos regrets pour tirer des leçons. Je ne lui ai jamais avoué mes sentiments. Désormais, je vais m'efforcer de m'exprimer davantage. Enfin, quatrièmement, il faut se concentrer sur le présent et se projeter dans l'avenir, dit Rosemarie. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux vraiment? Il est essentiel de focaliser sur ici et maintenant et de faire des plans pour le futur. Si on ne prévoit jamais rien, qu'on se laisse toujours aller au gré du hasard, les occasions de regretter seront assurément plus nombreuses, affirme la psychologue. Enfin, comment se débarrasser de la rancune? Rien d'agréable dans la rancune. Ce mélange d'aigreur et de ressentiment qu'on traîne comme un boulet. La rancune est en effet un sentiment douloureux, dit Rosemarie Charest. De plus, elle est généralement obsédante. Qu'on en veuille à notre mère d'avoir préféré notre frère, ou à notre patron de ne pas nous avoir offert la promotion tant convoitée. On doit savoir que la rancune n'a strictement aucune utilité, si ce n'est de préserver un lien avec la personne envers qui on l'éprouve. De plus, la rancune est très mauvaise pour la santé, c'est prouvé. Plusieurs études confirment en effet un lien entre la rancune et une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. D'autres, en revanche, affirment que le fait de pardonner améliore sensiblement la pression artérielle. Pour y arriver, un pas à la fois. Premièrement, a-t-on tenté de résoudre la situation vraiment? En s'exprimant, en tentant de communiquer avec d'autres personnes, en s'expliquant? Si on en veut depuis un an à notre meilleure amie parce qu'elle ne nous a pas choisi comme fille d'honneur, mais qu'en fait, on ne lui a rien dit, il est peu probable que les choses se règlent. Certaines personnes sont plus enclines à entretenir de la rancune que d'autres. Celles notamment dont une blessure peut être encore fragile ou encore celles qui ont de la difficulté à résoudre des problèmes interpersonnels. Deuxièmement, faire le deuil de la relation idéale. Si on en veut à notre père de ne pas nous avoir aimés assez, on devrait sans doute faire une croix sur la relation dont on aurait rêvé, dit la psychologue. On peut en vouloir beaucoup à des gens sans nécessairement vouloir rompre complètement la relation. Ce qui est souvent le cas avec les membres de la famille. Dans certains cas, on pourra toutefois choisir de prendre un peu de distance, de voir la personne moins souvent. Enfin, troisièmement, accepter. On pense peut-être qu'on doit pardonner pour se libérer de la rancune, mais pas nécessairement, explique la spécialiste. Certaines choses sont difficilement pardonnables. Toutefois, si on souhaite aller de l'avant, on doit les accepter. Qu'un collègue nous ait fait faux bond, qu'une amie nous ait menti, il est souvent un peu plus facile d'accepter quand on peut reconnaître qu'il y a du positif dans la relation, ajoute la psychologue. Bref, notre ex nous a peut-être quittés pour une autre, mais on a quand même vécu de bons moments avec lui.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde.
Je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits. Tous les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne les a. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma la solitude. Non, je ne suis jamais seule.
Un titre de Pink Martini, Ma solitude. Saviez-vous que la solitude serait aussi dangereuse que l'obésité pour la santé? C'est un texte paru dans le journal La Presse le 13 mars dernier. La solitude et l'isolement social sont aussi dangereux pour la santé que l'obésité, préviennent des chercheurs de l'université américaine Brigham Young. Ils précisent que l'impact sur la santé est le même pour ceux qui choisissent volontairement une vie solitaire que pour ceux qui sont entourés de gens mais qui se sentent seuls malgré tout. Le risque serait encore plus important pour les jeunes que pour les plus vieux. Les chercheurs ont constaté que la solitude et l'isolement social sont associés à un risque marqué de mort prématurée chez les gens de moins de 65 ans. Ils tirent leurs conclusions de l'analyse de 3 millions de sujets ayant participé à différentes études. Ils ont tenu compte de variables comme le statut socio-économique, l'âge, le sexe et des problèmes antérieurs de santé. L'effet inverse est aussi vrai. Si l'absence d'un réseau social est associée à un risque accru de mortalité, l'existence de relations semble avoir un impact positif sur la santé. Des études réalisées précédemment par les mêmes chercheurs comparaient le risque associé à la solitude, à l'alcoolisme et au fait de griller 15 cigarettes par jour. La nouvelle étude attribue à la solitude un danger pour la santé plus grand que celui de l'obésité. Les conclusions de cette étude sont publiées dans le journal scientifique Perspectives on Psychological Science. Lutter contre l'obésité avec l'hormone de l'amour. Alors, l'hormone de l'amour pour lutter contre l'obésité, un texte paru dans le journal de Montréal le 9 mars 2015. Un vaporisateur nasal renfermant de l'ocytocine de synthèse, l'hormone de l'attachement sécrétée par le corps pendant l'allaitement ou les rapports sexuels, ça te fait rire, Safia?
Vas-y, je veux connaître la suite.
A permis de réduire l'appétit d'un groupe d'hommes qui a pris part à une étude à Boston. Alors, nos résultats sont vraiment passionnants, explique Elizabeth Lawson, professeure assistante à la Harvard Medical School de Boston. De plus amples recherches sont nécessaires, mais je pense que l'ocytocine est un traitement prometteur contre l'obésité et ses complications métaboliques. Pour tester ce vaporisateur nasal, autorisé en Europe mais pas aux États-Unis, les chercheurs ont fait appel à 25 hommes bien portants, âgés de 27 ans en moyenne. 13 d'entre eux affichaient un poids normal alors que 12 autres étaient en surpoids ou obèses. On leur a demandé de s'administrer à l'aveugle une seule pulvérisation d'ocytocine ou d'un placebo, puis une heure plus tard de commander et manger un petit déjeuner copieux. Lors d'une visite suivante, les chercheurs ont échangé les placebos et l'ocytocine pour pouvoir comparer les résultats. Eh bien, les sujets avaient dû prendre note de ce qu'ils avaient consommé au cours des 3 jours précédant l'expérience. Les chercheurs ont remarqué que les participants avaient mangé les mêmes quantités de nourriture avant les 2 différentes expériences, sous placebo ou ocytocine. Réduction de l'apport calorique. En fait, la pulvérisation de l'ocytocine réduisait leur apport calorique en moyenne de 122 calories. Et leur apport en graisse baissait de 9 grammes lorsque les chercheurs comparaient l'alimentation des sujets après les 2 petits déjeuners. Les scientifiques ont expliqué que sous l'effet de l'ocytocine, la graisse corporelle des sujets se transformait en carburant pour réduire de l'énergie. En revanche, les effets sur l'apport calorique n'étaient pas clairs à leurs yeux, car les sujets n'avaient pas noté de différence d'appétit entre les 2 expériences. De plus, Elizabeth Lawson n'a pas noté d'effets secondaires importants à l'utilisation du spray à l'ocytocine, que des effets mineurs comme ceux rencontrés lors de l'utilisation du placebo. La chercheuse présentait ses résultats donc le 9 mars dernier à l'occasion du congrès annuel de l'Endocrine Society à San Diego, ou bien pour éviter le vaporisateur nasal, pourquoi ne pas simplement avoir plus de fun dans la vie? Et puis enfin, donc sur la thématique de l'obésité, manger à la brésilienne. Un article paru dans le coup de pouce d'avril 2015 par Catherine Mainville-M. Afin de lutter contre le fléau de l'obésité, le gouvernement brésilien a décidé de prendre les choses en main en créant un tout nouveau guide alimentaire. L'originalité de ce guide est qu'il ne se concentre pas sur ce qu'il faut manger, mais plutôt sur notre façon de le faire. Dorénavant, les Brésiliens sont invités à miser sur le plaisir de manger et les repas complets plutôt que sur les nutriments, comme le fait le guide alimentaire canadien. Selon les recommandations de ce guide, il est primordial de miser sur les produits frais qui nous tiendront loin des repas prêts à manger et des chaînes de restauration rapide. Tout en misant sur la fraîcheur, on réduit notre consommation d'huile, de gras, de sucre, de sel et de boissons en tout genre. C'est l'eau qu'il faut privilégier, on nous rappelle. Ensuite, on garde en tête que l'heure des repas est sacrée. Il est donc important de manger à des heures régulières et de bannir ordinateur, livre ou télé à table. Surtout, on fait du moment des repas et de leur préparation une période de plaisir qu'on partage en famille ou entre amis. Les études ont effectivement montré que les gens qui mangent en bonne compagnie ont tendance à manger moins. Ce nouveau guide nous encourage également à cultiver notre esprit critique à l'égard des publicités de l'industrie alimentaire qui tentent parfois de nous faire avaler n'importe quoi. Allez, bon appétit!
Gardien du monde, occuper une maison en l'absence de ses propriétaires, ramasser le courrier, arroser les plantes et promener Fido. Ça vous dit ? Il faut simplement accepter d'être hébergé gratuitement à San Francisco, Paris ou Sydney. Bref, là où des gens sont inquiets de laisser leur résidence sans surveillance pendant leurs vacances. Cet échange de bons procédés fait l'affaire de plusieurs voyageurs et de plus en plus d'agences en ligne mettent en relation propriétaires et bénévoles. Séjourner 2 semaines ou 3 mois dans un coin du monde qui nous fait envie tout en se rendant utile et en épargnant sur l'hébergement. Quelle bonne idée! Alors il y a housecarriers.com, housesitworld.com et illidor.com.
Trois alcools d'ici. Au Québec, on distille aussi des alcools forts. Alors, trois alcools forts à découvrir. Vodka pure, ultra premium. Pure, fine et limpide, elle a remporté de nombreux prix internationaux. Pure vodka Montréal, on parle de 42,50 pour une bouteille de 750 ml. Ensuite, Gin Pigger Henricus. Parmi sa longue liste d'aromates, on trouve entre autres le pané, qui apporte des accents terreux fort intéressants. Donc là, on parle de 30 et 25 pour 500 ml. Et enfin, le brandy de pomme Michel Jodoin Caliro, distillé en petite quantité puis élevé en fût. Ce brandy de pomme aux notes boisées et épicées n'a rien à envier au Calvados du nord de la France. Et donc là, c'est une bouteille de 700 ml pour 42 et 25.
Soyez gentils, céder notre place dans le métro ou être courtois sur la route sont des gestes qui pourraient contribuer à notre bonne santé. Les recherches actuelles tendent effectivement à démontrer que la gentillesse est bénéfique pour la santé. Selon une étude de l'université Simon Fraser à Vancouver, les dons à des organismes de bienfaisance favorisent le bonheur et diminuent le stress. Plus encore, la gentillesse, l'altruisme et la compassion permettraient de réduire le niveau d'anxiété, de soulager les symptômes de dépression, d'améliorer la santé de notre cœur et même d'accroître notre longévité. Que du bon!
Notre émission touche à sa fin, donc merci à vous pour votre écoute et pour votre présence. Merci à Jean-Sébastien pour ses choix musicaux et sa mise en onde. Pour tout commentaire, n'hésitez pas à nous contacter au 1-800-361-0635 poste 220 ou de nous écrire sur canalm@vusezvoix.com. Bonne semaine à vous et on se voit la semaine prochaine.
Bonne semaine.